l'état normal d'un chrétien. On est transformé par la foi en Christ. Notre esprit est maintenant uni à l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est uni à Christ, il est un seul esprit avec lui. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vous dis ce que nous sommes là. Quelques points seulement, évidemment, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, être en Christ, on a à peine touché le bord d'un océan. C'est un horizon. Et nous, on touche juste quelque chose. C'est absolument exceptionnel, cet endroit là où Dieu nous a placés, c'est-à-dire en Christ. On est absolument accepté dans la famille de Dieu. Encore une fois, pas seulement pardonné pour être pardonné et pour aller au ciel, mais accepté, et nous sommes maintenant la préoccupation de Dieu. Quelque part dans la parole, il dit « nous sommes la prunelle de ses yeux ». Et le chrétien prend conscience de cette valeur-là qu'il a en Jésus-Christ. Valeur pour qui ? Par rapport à qui ? Par rapport à Dieu. La valeur que nous avons aux yeux de Dieu. Celui qui n'a pas épargné son propre fils. Je voudrais dire aux mamans là, si vous avez un fils, pour nous sauver nous tous, quelle est la mère qui va le faire ? Va le donner son fils ? Personne. Christ, Dieu l'a fait. C'est ça l'amour de Dieu. Dieu l'a fait. Si Dieu n'a pas épargné son propre fils, mais qu'il l'a donné pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi librement, on parle de liberté, librement, quoi ? Toutes choses. Avec lui. Tous les mots comptent. Tous les mots comptent. Lisez la Bible lentement, je vous en supplie. Et vous allez voir, la Bible va vous sauter à la figure. C'est absolument... Et puis là, on est dans la foi, on reçoit, c'est une parole de Dieu. Et on est transformé par elle. Le chrétien normal reçoit maintenant sa motivation par... l'Esprit de Dieu au lieu de ses anciennes habitudes que la Bible appelle la chair. Rappelez-vous, on était en Adam, on avait nos kits de survie. Et maintenant, nous sommes motivés par l'Esprit de Dieu. Tout à l'heure, dans la pause, quelqu'un est venu me dire, mais c'est un peu théorique ce que tu dis. Alors, je dis, ok, d'accord, qu'est-ce que tu veux savoir ? Il dit, oui, mais c'est bien de savoir toutes ces choses, mais pratiquement. Ah ben, pratiquement. Si Christ vous habite, parlez-lui. Écoutez-le. Ne le laissez absent de rien. Voici, je frappe à la porte. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ce n'est pas juste globalement pour sa vie. J'ai ouvert la porte au Seigneur dans ma vie. Et maintenant, je continue à vivre seul. Mais non. C'est chaque point. Chaque point. Je connaissais quelqu'un. Parce qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir conscience que Christ l'habitait, à l'heure ronde de toutes les heures, elle avait mis un petit signal. Et là, elle prenait une minute pour parler avec le Seigneur, pour prendre cette habitude. Il est vivant et il est vivant en nous. C'est la chose la plus merveilleuse qui peut nous arriver. Christ nous habite. Le chrétien, la chrétienne est la seule personne au monde qui peut être seule sans jamais être seule. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Notre problème, à vous et à moi, c'est qu'on a tellement peu l'habitude, et on avait tellement peu l'habitude de marcher en collaboration avec quelqu'un, on marchait seul. Et dans notre vie chrétienne, on n'a pas pris l'habitude de marcher avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit, Seigneur ? Tout à l'heure, j'ai mentionné, là, Matthieu 11, 28, si quelqu'un... venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Ça veut dire qu'il est là à côté et nous allons apprendre à vivre avec lui. On va faire cas de lui dans chacune de nos circonstances. C'est une habitude. Alors moi, j'ai ma propre question, n'est-ce pas ? J'ai compris que Christ m'habitait. Donc, je m'applique, ce n'est pas théorique, je m'applique à lui dire, dans toutes mes circonstances, voilà, au maximum, je suis en croissance, n'est-ce pas ? Je ne suis pas arrivé, évidemment. Mais, je dis, Seigneur, on fait comment tous les deux ? Avant, je me débrouillais tout seul. Maintenant, dis, on fait comment tous les deux ? Benoît, ça va ? On fait comment tous les deux ? Dans toute chose, dans le travail, dans la relation avec ma femme, dans mes relations avec mes enfants, on fait comment ? Écoutez, toutes nos circonstances nous dépassent. Vous avez entendu ça ? Méfiez-vous des petites circonstances toutes simples. Elles peuvent vite être des catastrophes ou des très complexes à gérer. Et là, le Seigneur dit, mais non, vous voulez entrer en relation avec quelqu'un ? Il dit, le Seigneur frappe à la porte. Il dit, ok, si tu entends ma voix, je suis d'accord de rentrer dans cette circonstance. Si tu ouvres la porte, mais la clenche n'est qu'un d'un côté, n'est-ce pas ? C'est nous qui ouvrons la porte, Seigneur, viens. Vous avez déjà fait ça le matin ? Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui, je veux passer la journée avec toi. Je t'invite dans la journée. Vous avez déjà fait le geste ? Seigneur, je t'invite là. Et j'ouvre la porte. C'est symbolique, mais c'est très important. C'est très important parce que je le vois dans la parole, ça. Et le Seigneur dit, il y a sept verbes là, il y a sept verbes. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Qui amène le pique-nique ? C'est lui qui amène la nourriture à manger. Il vient, c'est un peu comme dans Jean 21. Jean 21, ils pêchent toute la nuit, et puis ils prennent rien. Et finalement, bon, vous connaissez l'histoire, mais finalement, c'est très bien marqué. Et il y avait de la braise, et sur cette braise, du poisson et du pain. Trois choses, la braise, le poisson, le pain. Et Jésus dit quoi ? Venez, venez dîner, à table. Tout est prêt. Mais c'est cette collaboration avec le Seigneur Jésus-Christ. Ça doit être, et vous allez voir, vous allez être transformé, votre vie va être transformée. Pourquoi ? Qu'est-ce qui va se passer ? C'est ça la libération. Ce qui va se passer, c'est que votre sensibilité spirituelle. Rappelez-vous, quand vous avez conduit une voiture la première fois, heureusement qu'il y avait l'instructeur. Et nous, on était toujours en train de surréagir, n'est-ce pas ? Maintenant, remarquez comment vous conduisez, vous avez tellement acquis une sensibilité, une expérience, que vous faites des petits gestes et la voiture, vous n'y pensez même plus. Et vous allez voir que nous devons acquérir cette sensibilité spirituelle. Comment elle se passe, cette sensibilité spirituelle ? Comment on l'acquiert ? Par le fait de l'habitude. L'habitude, l'usage. L'usage, ça veut dire « je ne laisse Dieu absent de rien ». Et ce n'est pas pour autant que je suis toujours dans… Non, je vais dire ça différemment, très positivement. La prière, elle prend beaucoup de sens. La prière, elle est plus pénible. La prière, ça devient une respiration. Pourquoi ? Parce que Christ est vivant et il est là. Donc on lui dit « Seigneur, on fait comment ?» Fait comment ? Ça, c'est le chrétien. Le chrétien normal, il renouvelle sa façon de penser. Seigneur, avant, je pensais comme ça, et maintenant, je pense comment je pense. Et la parole va nous parler, parce que, et va nous transformer. On a déjà mentionné Romains chapitre 12, verset 2, « Soyez renouvelés dans votre intelligence. » Nos modes de pensée, on va les remplacer par la vérité. Comment ça se fait que parmi nous, et j'en suis un, je me laisse des fois troubler le matin, je me réveille, je suis morose, j'ai plus de joie, Je ne sais pas pourquoi. Ça va. Hier soir, ça allait bien. Ce matin, ça ne va pas. Qu'est-ce qui a changé? Et comment est-ce que je fais pour réagir à ça? Mais je vais vous dire, parlez à votre âme. Dites à votre âme, ne laissez pas votre âme dire des choses qui ne sont pas justes. Parce que la vérité, elle demeure. L'amour que Dieu vous porte, il demeure. Psaume 42, qu'est-ce qu'il dit, psaume 42? Il dit, pourquoi es-tu abattu, mon âme? Tu n'as aucune raison d'être morose. Pourquoi la paix est partie? T'as péché? Ah ben si t'as péché, tu sais ce que tu dois faire. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on a péché? On confesse. Et puis, on se relève. Avec cette assurance que Dieu nous a déjà pardonné. Il nous a pardonné parce que Christ est mort pour nous sur la croix. Donc on se relève. Et pourquoi j'ai pas de joie? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne le sens pas. Et ça ne change rien, ça. Dieu vous aime pareil. Dieu vous aime la même chose. Donc parlez à votre âme et dites à votre âme la vérité de la parole de Dieu. Jésus m'a dit qu'il me laissait la paix, pas comme la paix comme le monde le donne, mais sa paix. Donc je prends la paix de Jésus. Alors vous allez dire, mais attends, c'est trop simple, quoi. Mais c'est ça la vie chrétienne. Ne rendez pas l'évangile compliqué. J'ai mon mentor, il me dit ça tout le temps. Enfin, j'ai un mentor, j'ai un frère qui me surveille. Enfin, c'est mon vis-à-vis. Et il me dit, Bertrand, garde l'évangile simple, tout le monde doit le comprendre. Heureusement qu'il me dit ça. Et la simplicité, c'est ça. C'est le Seigneur dit quelque chose, je l'accepte. Qu'il me soit fait, continuez, selon ta parole. C'est-à-dire, aucune parole de Dieu ne sera sans puissance. Donc, je le crois. Et je ne permets pas à mon âme de dire des choses qui ne sont pas justes. Comme quoi, par exemple, et là, c'est l'enfermement. T'es nul, t'es pas capable, continuez. Tu vois rien, continuez. Là, vous les connaissez tous, là. On est tous les mêmes. Quoi d'autre? Oh voilà, les autres. Oh, si seulement j'avais le don de l'autre, là. Oh, le don des autres. On est prisonnier de cela. La convoitise des dons de l'autre. Alors on se croit très, oh, moi je peux rien, moi je peux rien. Et pardon, la vérité c'est quoi? Je suis capable. Je suis capable, pourquoi? Parce que je peux tout. Par celui qui me fortifie. Même je peux me tenir devant vous. Si vous saviez quel combat ça a été pour moi ces deux dernières semaines de me tenir devant vous. Eh bien, vous imaginez. Voilà, Pierre qui ne croit pas. Mais c'est ça, je dis la vérité, c'est un combat. Je ne sais pas comment le faire. Mais pourtant, et j'ai rencontré un gars drogué. Addict sexuel, alcoolique, enfin, tout, quoi. Et le gars, je le vois, et je lui dis, mais comment t'en es sorti? Il m'a dit, ah, juste à cause de ce verset. J'ai cru ce verset en Philippiens. Je peux tout par celui qui me fortifie. Mon âme me disait constamment... Mais non, tu peux pas, tu as besoin. Et je me suis accroché juste à la vérité, là. C'est ça, la liberté. C'est la vérité qui nous libère. Donc, parlez à votre âme. Vous n'avez pas de joie? Vous avez un creux de vague? Ça existe. Bien sûr que ça existe. Et moi, je ne dis pas qu'on doit être à un niveau constant, avec un sourire... factice, je ne suis pas là-dedans. Mais quand même, si vous réalisez, si vous acceptez certaines paroles de Dieu à votre sujet, je t'ai aimé d'un amour éternel. Je me réjouis avec joie, dit Dieu. Vous avez déjà entendu ça en français, ça? Je me réjouis avec joie. Attends. Mais pourtant, c'est hébraïque, ça, c'est pas traduisible en français. Mais c'est marqué dans Sophonie, je me réjouis avec joie. Et ça me concerne. Donc là, quand je parle à mon âme, je dis, mais Bertrand, tu n'as aucune raison. Ben, vous allez dire peut-être, c'est bien pour toi, mais pour moi, ça ne marche pas. OK. L'autre chose que le chrétien normal fait, c'est qu'il est libre maintenant, et on en a parlé tout à l'heure de Romains 7, Romains 8, il est libre de choisir de marcher par l'esprit. Ce qui le tenait enchaîné à la loi du péché a été cassé. On est libre. C'est quoi la liberté ? La liberté absolue n'existe pas. Si vous dites, je ne veux pas prendre le joug du Seigneur, parce que je suis libre de ne pas le prendre, oui, d'accord. Mais vous serez sous un autre joug. Ça n'existe pas, la liberté est pure. Tout ce qu'on a, c'est la liberté de choisir. Vous voyez ce que je suis en train de dire ? Et le lien qui nous liait au péché a été cassé. Le péché ne va jamais mourir. Satan ne va pas mourir, en tout cas pas tout de suite, pas jugé tout de suite. Le monde, il ne va pas mourir. Mais comment est-ce que nous, on a été cassés par rapport à ces liens qui nous tenaient là? Nous, quand Christ est mort, et on doit l'accepter par la foi, vous n'allez pas sentir de frissons ou quoi que ce soit, c'est un fait. Quand Christ est mort, il m'a incorporé dans sa mort et dans sa résurrection. Vous devez le croire, je dois le croire cela. Comme vous avez cru que Christ est mort pour vos péchés, que c'était lui et pas un autre, eh bien, vous devez croire cette seconde vérité qui est si importante, de telle manière que sachant ceci, nous dit Romains 8, sachant ceci, nous nous considérons maintenant comme morts à toutes ces choses-là et, allez-y, vivants à Dieu. Ça, c'est Romains 6, 11. Et Romains 6, 11 est très pratique, très pratique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les jours et plusieurs fois par jour, parce que la tentation ne cessera jamais, elle sera jusqu'au bout de notre vie sur la terre. La tentation va tourner. La tentation, c'est quoi ? C'est des essais de Satan, c'est des tentatives de Satan pour nous faire croire autre chose que la vérité. Il nous tente pour nous détourner de la vérité et nous enfermer de nouveau. Eh bien, la liberté, elle est là, elle est à dire, Père, pour la journée d'aujourd'hui, ou bien pour l'instant d'aujourd'hui, je me rends vivant à toi. Quand est-ce que vous l'avez dit la dernière fois ? Je me rends vivant à toi. En tout cas, ça marche pour moi. Je ne sais pas pour vous, mais ça marche pour moi. Essayez. Si ça ne marche pas, regardez si la parole dit autre chose. Mais c'est tellement important. On revient à la relation à Dieu. Si je suis vivant à Dieu, si je me rends vivant à Dieu, d'abord, je tourne le dos à tout le reste. Et là, je peux entretenir cette relation. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est que la puissance du Saint-Esprit va faire vivre et vibrer mon cœur. Et en fin de compte, la vie chrétienne, c'est ça, que notre cœur vibre. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une vieille bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui, que nous sommes capables de vivre en homme et en femme de Dieu. Réjouissez-vous, souriez-moi s'il vous plaît, parce que j'ai l'impression que c'est trop solennel ça. Mais... On est d'accord, nous sommes encore dans la chair, c'est-à-dire dans notre corps. Et notre ancienne manière de vivre va toujours frapper à la porte. La présence de la loi du péché sera toujours là, mais pas sa puissance. Faites bien, les jeunes, faites la distinction. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre ça. Beaucoup de mal. Je pensais que comme j'étais enfant de Dieu et comme j'aimais le Seigneur et que le Seigneur m'aimait, que les choses devraient être magiquement, je ne sais pas quoi, rose, que ça devrait, et puis ça ne marchait pas. Jusqu'au moment où j'ai accepté que la loi du péché, je peux la laisser vivre. Et moi, j'étais mort à ça. Et que j'étais détaché de sa puissance. Et je pouvais décider de vivre dans cette communion, dans cette relation à Dieu. Alors maintenant, parlons de la communion à Dieu. Il y a au moins deux passages, mais beaucoup plus, mais deux passages spécifiques qui dit qu'un enfant de Dieu, il est en communion avec Dieu. Rappelez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure. Un chrétien, ce n'est pas un homme ou une femme qui a fait une expérience. Ce n'est pas un être humain qui a fait une expérience spirituelle. C'est un être spirituel qui a une expérience humaine. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que nous partons de la manière dont nous voit Dieu et non pas de la manière dont nous voyons. Et puis, ça ne marche pas. Si, ne prenez pas les choses à l'envers. De toute façon, dites-moi, à quoi ça sert? Quelle est la fonction que Dieu nous a assis avec Christ dans les lieux célestes? Pour régner avec lui, on a chanté quelque chose. Et régnons-moi, bon, mais quoi d'autre? Et puis dans Romains, Romains 5, il est dit, nous régnons avec lui, oui. Et si vous regardez l'apôtre Paul, il régnait dans ces circonstances, c'est-à-dire il n'était pas dépendant du roi Agrippa, de Bénéris et de Festus. Non. Les autres pouvaient être en bel apparat. Lui, il était comme un prisonnier sale et mal vêtu. Mais c'est lui qui régnait. Vous pouvez lire ça, c'est extraordinaire. C'est un homme en Christ qui règne. Il ne se laisse pas déranger. Pourquoi? Parce qu'il voit les choses de la manière dont Dieu voit les choses. À quoi ça sert que nous soyons assis avec Christ dans les lieux célestes? À voir les choses différemment qu'avant. On voit avec le regard de Dieu. Et on voit nos circonstances. Et alors, on traverse les mêmes circonstances, n'est-ce pas, que les hommes dans le monde. C'est les mêmes souffrances, des fois même pires. Cancer, des enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur, tout est là. Sauf que la différence, c'est quoi? Que Dieu est souverain, que Dieu a contrôle, il a même le contrôle sur le péché. Et ses plans ne sont pas les nôtres. Et vous savez ce qu'il nous dit? Ne gaspille pas la circonstance. C'est dur, mais ne la gaspille pas. Ça veut dire quoi? Je suis en train de t'entraîner, comme tu m'as permis de le faire, dit le Seigneur, puisque tu m'as donné ta vie, donc je t'ai pris au sérieux. Je suis en train de t'entraîner à être semblable à mon fils bien-aimé, puisque tu es mon enfant bien-aimé, eh bien, je suis en train de te former à son image. Et pour la vie, pour Dieu, la vie sur la terre, c'est 80 ans, c'est un clin d'œil pour lui. Ce qui compte, c'est quoi? C'est qu'il nous prépare. La question, je le disais aux jeunes hier soir, à certaines, prenez des décisions que vous ne regrettez pas dans 1500 ou 2000 ans. Ben oui, mais absolument, absolument. On est donc dans la chair, on est dans nos circonstances. Mais ce que je vis dans la chair, dit l'apôtre Paul, Galates 2:20, ce que je vis aujourd'hui dans la chair, je le vis dans la foi, c'est-à-dire dans la confiance. C'est-à-dire, c'est une collaboration. Écoutez, si je vous dis, arrêtez de travailler pour Dieu, ce que je veux dire, c'est arrêtez de trimer pour Dieu. Collaborer avec lui. Soyez collaborateur, ouvrier, co-ouvrier avec lui. Pour cela, qu'est-ce qu'il faut? Accepter le joug du Seigneur. Et il marche à côté, il nous donne le rythme. Quand on veut aller à droite, il nous ramène. Et contact, mano, hein, on est transformé en la même image. C'est une vie, c'est un style de vie. On n'a plus, on n'est plus à aller au culte le dimanche matin, on n'est plus, on va continuer tout ça, n'est-ce pas? Mais c'est un style de vie. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est une bonne odeur qui va se dégager. La bonne odeur de Christ. Pour qui? Pour Dieu. Mais aussi pour les autres. Peut-être j'ai déjà raconté cette histoire, mais raconter deux histoires. Un jour, je conduis ma voiture et j'étais tellement heureux. Bon, je pêche beaucoup. Confesse, je pêche beaucoup. Et je me réjouissais parce que Romains 8:1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Aucune, aucune. Vous savez, quand on est prompt à la culpabilité personnelle, ça fait du bien d'entendre ça, n'est-ce pas? Enfin, je ne sais pas si vous vivez ça, mais en tout cas, je vivais ça, quand j'ai eu ma voiture, et je me réjouissais, je dis, béni sois-tu, Seigneur, mais je t'adore pour ça. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as pris soin de moi comme ça? Enfin, voilà, tout seul. Puis il y a une longue ligne droite, 50 km à l'heure, il y a souvent les gendarmes, je fais attention. Puis au bout, il y a un feu. Puis il y a une voiture qui... Je m'arrête au feu, premier. Et puis il y a une voiture qui se met à gauche, là, une dame de certain âge. Et puis je la regarde, elle me fait descendre la fenêtre. Je dis, OK. Donc, elle dit, c'est quelle station radio que vous écoutez qui vous rend si joyeux? Et là, le feu commence à être ouvert. Je n'ai pas répondu, mais évidemment. J'étais étonné. J'ai dit, oh... Mais l'autre jour, je marche, c'est pas moi qui promène mon chien, c'est mon chien qui me promène. Chez nous, il y a des vignes, donc je marche dans les vignes, puis je pris contact avec il y avait un vigneron qui travaillait, puis on a causé, je lui ai demandé comment il coupait, il taillait ses vignes et tout ça. Je m'intéresse un peu à son travail, et puis voilà. Le temps passe, disons, plusieurs fois, comme ça, on se dit bonjour, on s'arrête, on parle un petit peu. Puis tout à coup, il me dit, Bertrand, je peux te poser une question? Il me dit, oui, j'ai dit, bien sûr. T'es croyant, toi? Alors j'ai dit, ben oui, je suis très croyant. J'aime le Seigneur Jésus-Christ, il est mon Seigneur. Il dit, ben, je le savais. J'ai dit, comment tu le sais? Non, juste ta façon d'être. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Les gens perçoivent que vous êtes habité. Ayez conscience de cela. Ne faites rien pour cela. La branche qui est attachée, n'essayez pas d'être attachée au cep. Vous l'êtes. Ça, oh, quelle tranquillité, quoi. C'est du repos. Le fruit, ne vous occupez pas des fruits. Occupez-vous de vous régaler en Christ. La joie en Christ. Régalez-vous de lui. Les fruits vont venir. C'est pas bon, ça? C'est ça. Et on va porter du fruit, et du fruit qui demeure. Et même, et là je suis dans Jean 15, 16, le fruit qui demeure. Donc Dieu nous a... Je reprends ce verset. C'est pas vous qui m'avez choisi, dit le Seigneur Jésus aux disciples, mais c'est moi qui vous ai choisi. Oh, on a vu ça ce matin, avec Galates 1, ce que Nathanaël a lu comme verset au culte. Il nous a choisis, il nous a élus. Et puis, et je vous ai établi. En quoi Christ nous a établis? Ça, c'est vraiment une réflexion. En quoi il nous a établis? Allez-y, cherchez en quoi il vous a établis. Quel est le regard de Dieu sur vous? Et vous allez voir que nous sommes bien plantés, établis dans le Christ. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais on ne peut pas s'arrêter là. La suite, c'est quoi? Afin que vous alliez, et ce matin, on a parlé de partager, allez, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que ce fruit demeure. Parce qu'on n'a qu'une seule vie sur la terre, et on n'a pas le temps de la perdre. Et tous les jours comptent. Et je ne veux pas mettre personne sous la loi, mais faites ce que vous avez à faire pour mettre des points dans le ciel, quoi. Parce que on ne peut pas faire autrement. On a été sauvés par un si grand prix. Bon, que votre fruit demeure, c'est-à-dire il reste pour la vie éternelle. Écoutez, moi, je n'ai jamais eu autant de peine qu'un frère qui m'a dit, en France, il me dit, qu'est-ce que tu fais ? Je lui explique notre travail en Afrique et tout ça, dans les à travailler. Et il me dit, mais moi, j'ai travaillé pour... il était à la retraite, hein, il avait peut-être 75 ans, comment vous dites, 80 ans, c'est ça, 80 ans, c'est plus facile pour moi. Et il me dit, mais moi, je travaillais pour une importante compagnie de pharmacie et tout ça. Et j'allais en Afrique aussi. Alors, il me cite des villes, je connais ça. Je lui dis, mais tu as pu avoir des contacts? Ah, ben non, j'étais là. Et là, tout à coup, j'ai senti chez lui un grand sentiment de vide. Il a passé sa vie. C'est pas mauvais de travailler, c'est pas ça. Bien sûr, tout le monde n'est pas appelé aux mêmes choses. Mais c'est pas ça dont on parle. C'est d'être une respiration, une transpiration, une bonne odeur pour Christ, partout où nous sommes. Et attendez, ce n'est pas fini dans ce verset. Il y a autre chose qui pointe. Je vous ai établi, c'est lui qui nous établit, et on croit ce qu'il nous dit. Ce qui fait qu'on peut partir, on a un message. Un homme ou une femme qui n'a pas de message, il est vide. Il tombe à plat, la platitude. Il a un message, il va le transmettre, il porte des fruits, ses fruits demeurent, mais il y a autre chose qui arrive. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ça veut dire que cette vie-là, ça vous amène à une intimité avec le Père. De telle manière que le grand problème, parce que ça c'est la question numéro un quand on dit à une assemblée, vous voulez que je parle de quoi ? Parle-nous de la volonté de Dieu. Les jeunes, ils aiment beaucoup ça. Comme si c'était, on appuyait sur des boutons, pop, 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 et on a la volonté de Dieu. Mais la volonté de Dieu, elle vient parce qu'on est soumis à Dieu, d'abord. Elle ne nous est pas révélée. Et soumis à Dieu, et parce qu'on se donne à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à... Quoi faire ? Offrir vos corps. Et puis après, il est parlé de la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Et ça, pour nous, c'est une grande question. C'est quoi cette volonté de Dieu ? Comment on la trouve ? Eh bien, on la trouve parce qu'on est établi, parce qu'on porte des fruits. Ces fruits, c'est des bons fruits, ça demeure. Et on développe une intimité avec le Père. Je suis toujours en train de parler de cette sensibilité à l'esprit. Et on va discerner ce que le Père veut entendre comme prière. Et attendez, juste verset. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on ne sait pas prier ? Et que l'Esprit Saint nous est en aide, car nous ne savons pas ce qu'il faut demander comme il convient. Donc on ne sait pas. Il faut accepter qu'on ne sait pas. Mais l'Esprit Saint nous est en aide. Ah ben, chose extraordinaire. Donc on a cette confiance. Ouais, on n'a même pas parlé de la peur. Mais on en est là. On vit chaque jour avec ce choix, soit je marche comme avant, soit je décide de marcher par l'esprit. Je voulais juste parler brièvement de la peur. Il peut nous arriver. Je parle des peurs irrationnelles. Il y a une bonne peur. Chez nous, pour descendre du village, ça descend, il y a quelques virages. Bon. Ma femme dit, roule doucement, j'ai peur. Et moi, je lui dis, bah non, t'as pas besoin d'avoir peur. Oui, mais ça n'arrange pas. Elle a peur. Donc, je dois ralentir. La peur nous garde, n'est-ce pas ? La peur, un alpiniste qui n'a pas peur va se tuer. Quelqu'un qui roule en moto qui n'a pas peur va se tuer. La peur est quand même une bonne chose parce que ça va nous garder dans certaines limites. Mais je parle maintenant des peurs irrationnelles. et ces peurs irrationnelles qui nous conduit à douter du caractère de Dieu, de sa parole et de sa puissance. Quand nous avons peur, nous sommes vulnérables et en proie à la manipulation, à la déception, et l'ennemi de nos âmes nous fait toujours peur, veut nous faire peur. Et Dieu passe sa vie, son temps, excusez-moi l'expression, Dieu passe son temps à nous dire « ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas ». Mais tout ça, ça revient, « t'es mon enfant bien-aimé, je trouve mon plaisir en toi, ne crains pas, t'es au milieu de mes préoccupations ». Rejetez sur lui tout votre souci, car vous êtes au centre de ses préoccupations. C'est ça la traduction. Car il prend soin de vous. Et nous, on continue d'avoir peur. Et pourtant, Paul à Timothée nous dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais de... Qu'est-ce qu'il vous a donné ? Puissance, d'amour et de conseil, ou de bon sens, ou de sagesse, comme vous voulez. Mais il ne nous a pas. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas en tout cas ? Un esprit de crainte. Qu'est-ce que nous avons ? Un esprit de puissance, d'amour et de conseil. Lisez la Bible doucement, laissez-vous pénétrer et appliquez la foi dans la parole de Dieu. Les peurs, parlez à votre âme. Tu n'as pas besoin d'avoir peur, mon âme. T'es enfant de Dieu, il prend soin de toi. Qu'est-ce qu'on fait avec nos peurs ? On applique on affirme la vérité de la parole de Dieu. On laisse Dieu nous encourager et nous fortifier dans nos faiblesses. Mais il y a des peurs qui peuvent être là, n'est-ce pas ? Éphésiens chapitre 6, verset 10. C'est quoi ? Au reste, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. La puissance de sa force. Parce qu'il y a trois termes pour parler de la force en grec. Et nous, le traducteur a trouvé ça dans la puissance de sa force. Ça veut dire que fortifie-toi en lui parce qu'il est puissant et il va te garder. Juste ça, il va te garder dans quoi ? Il va te garder dans la foi, pas forcément dans tes circonstances. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Les circonstances dans lesquelles on vit, Dieu les connaît et Dieu n'est pas dépassé par nos circonstances. Mais nous, on voudrait bien... On pense que comme Dieu nous aime, il devrait nous délivrer de toutes nos circonstances douloureuses. Or, quand il est marqué dans Romains 8, 28, car nous ne savons pas comment il faut demander comme il convient, tout de suite après, il est dit, car nous savons, il y a une chose qu'on ne sait pas, mais nous savons que toute chose concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quand vous enlevez ce verset du contexte, vous dites toute chose. Donc toutes choses vont être comme je l'imagine. Mais non, non, non. Toutes choses vont finalement tourner à mon bien pour l'éternité. Et on a tous nos chagrins et on a tous nos difficultés. Nous avons nos épreuves. Les jeunes et les moins jeunes, nous avons nos épreuves. Persuadés que Dieu est souverain sur toute chose et n'est pas dépassé par ces épreuves-là. C'est dur, c'est dur. Et il nous console dans nos épreuves et il nous guérit au plus profond de nous-mêmes. Mais l'épreuve sert à quelque chose. Et je ne voudrais pas être léger là, mais ne gaspillez pas vos épreuves. Vous comprenez ce que je suis en train de dire ? Dieu est en train de faire quelque chose de spécial. Demandez-lui plutôt, qu'est-ce que tu as en vue ? Demandez-lui plutôt, comment tu vois les choses ? C'est ça. Comment vois-tu les choses? Nous, on voit souvent les choses de la terre parce que on y... mais non, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. Et comment tu vois les choses? Je sais qu'au milieu de nous, nous sommes plusieurs à souffrir de certaines choses qui sont très difficiles, n'est-ce pas? Il y a la peur d'être puni. On pêche, on a peur d'être puni. Et c'est vrai que le principe de réalité, c'est que quand on fait quelque chose, il y a des conséquences. Ce que les jeunes n'ont pas toujours conscience. Mais on n'est pas puni par Dieu. Est-ce que je me fais entendre? On n'est pas puni par Dieu. Dieu peut nous discipliner, mais c'est pour quoi faire? C'est toujours dans le même but, parce qu'on est fils. On peut avoir peur de l'homme, peur des autres. Peur de ce que les gens peuvent penser de nous. Ça me paralyse, ça. Ou plutôt, avant, ça me paralysait. Moi, maintenant, si Dieu m'a accepté, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ce n'est pas si simple, quand même. C'est tout un processus. Il y a toujours un travail. Il faut toujours que je me rappelle la vérité, n'est-ce pas? Et il faut que je le dise à mon âme. Peur d'être rejeté par ses proches. Ça vous arrive pas, ça? Bien sûr. Peur de dire quelque chose. Peur de témoigner. Peur de l'échec. Est-ce que Dieu n'utilise pas nos échecs? Est-ce que Dieu n'a pas utilisé l'histoire du fils prodigue, il a même permis l'échec, parce que l'échec va servir. Ne gaspillez pas vos échecs. Peur de l'insécurité, on va terminer avec ça. Hier soir, je mentionnais Jérémie 29-11, vous connaissez tous. J'ai des projets, non pas de malheur, mais des projets de bonheur, et pour vous donner un avenir. Et nous, on est pétris de peur par notre insécurité. Peur de ne pas pouvoir comprendre la volonté de Dieu et manquer à son appel. Non, non, vous le savez, vous le saurez. Vous le saurez. Tranquillisez-vous, reposez-vous dans l'amour de Dieu. S'il doit parler, il va le faire. Et à propos, passez du temps juste à poser une question au Seigneur et écoutez. Prenez 5 minutes de temps en temps, juste 5 minutes. Vous vous asseyez et dites, Seigneur, comment tu vois les choses? Et vous écoutez. Souvent, nous, on est dans la prière et on parle. Au nom du Seigneur, amen. Et hop, on part. Et le Seigneur, il dit, oh, je veux te parler, là. On est déjà parti. Non, c'est une relation. Il faut qu'il nous parle, mais il faut qu'on lui donne le temps de nous parler. Et ça prend du temps. Vous allez voir les difficultés quand vous prenez 5 minutes et vous lui posez une question. Seigneur, comment tu vois ces circonstances, là? Et vous allez attendre 5 minutes. C'est un exercice spirituel. Vos pensées vont partir dans tous les sens. Ne vous inquiétez pas. Si vous faites ça jour après jour, faites ça 15 jours. 5 minutes, vous allez voir que vous allez être capable de ramener vos pensées et de les placer sous l'obéissance de Christ, de Corinthiens chapitre 10. Et finalement, d'écouter la voix de Dieu. Et vous allez aussi discerner entre votre propre voix, la voix de l'ennemi et la voix de Dieu. Vous allez voir, mais c'est un exercice. Rappelez-vous, on n'avait pas l'habitude. Quand on était sans Dieu, on n'avait pas l'habitude. Et maintenant, il nous faut réapprendre. Peur que Dieu ne soit pas digne de confiance et qu'il n'arrive pas à accomplir ses plans à travers nous. Ça veut dire qu'on doute de la bonté de Dieu. Peur d'être incapable de répondre à l'appel de Dieu. Ben non. Si vous vous soumettez à Dieu, vous allez répondre à l'appel de Dieu. Peur de vous engager à prier pour quelqu'un. Peur de s'engager dans l'assemblée. On peut avoir peur de tout, en fait. Peur de donner de l'argent pour le service de Dieu. Et moi, je me dis, allez, si vraiment, on était conséquent avec nous-mêmes, avec ce qu'on comprend de la parole de Dieu, mais les 10% de la dîme de l'Ancien Testament, mais ça serait bousculé, quoi. Et on s'apercevrait des délivrances de Dieu. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. J'ai bien conscience qu'on n'est pas allé très loin, mais laissez-moi juste conclure. Je voudrais conclure en paraphrasant un passage difficile d'Éphésiens 3. Et vous le relirez à la maison si vous voulez. Mais l'apôtre Paul commence en disant « Moi qui suis le moins du moindre des apôtres, de tous les saints, la grâce m'a été faite d'annoncer parmi toutes les nations les richesses insondables de Christ. » La première chose, c'est est-ce que vous émerveillez des richesses insondables de Christ ? Là, c'est le point névralgique. Si vous ne vous réjouissez pas des richesses qui sont en Christ et que ça ne vous remplisse pas, et émerveille pas, et ne vous étonne plus, alors arrêtez-vous. Et posez des questions au Seigneur, soyez sérieux, et que l'Esprit vous révèle. Et c'est tout à fait biblique ce que je dis, Éphésiens chapitre 1, verset 15 ou 18, là, où il est dit, « Je ne cesse de prier le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il vous donne l'Esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Et que, afin que les yeux de votre cœur soient illuminés pour reconnaître l'appel ou l'espérance qui est liée à votre appel, les richesses qui sont dans les saints et la glorieuse puissance, je crois. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'on a le droit de prier Dieu pour une nouvelle révélation de lui-même. Et c'est ce dont nous avons besoin, et c'est ce dont l'Assemblée a besoin, parce qu'on tombe dans la routine. On tombe, comme un couple tombe dans la routine, c'est la pire chose qui peut arriver dans un couple, et bien nous aussi, dans l'Assemblée, on peut tomber dans la routine. Oui ou non ? Ok ? Eh bien, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut un réveil. Comment il vient ce réveil ? Par moi-même, pas les autres, mais moi. Comment il vient chez moi ? Par la supplication, Seigneur. Donne-moi un esprit de sagesse et de révélation. C'est biblique. Fais-moi comprendre l'espérance qui est liée à mon appel. Fais-moi comprendre les richesses glorieuses de ton héritage dans les saints. Ça, on est en Christ. Fais-moi comprendre l'immense puissance à mon égard, puissance que tu as montrée dans la résurrection de Jésus-Christ. Vous êtes d'accord de le faire ? Vous allez voir. Vos assemblées vont être révolutionnées. Hein. Priez pas trop, hein, parce que ça va bouger, quoi. Méfiez-vous du changement, quand même, hein, ça va déranger. Mais maintenant, je vous donne la vision, n'est-ce pas ? Pourquoi Paul dit, je passe parmi toutes les nations, moi qui suis le moindre de tous les saints, parce que pour déclarer, les richesses insondables de Christ, il faut que ces richesses insondables de Christ soient des richesses pour nous. C'est ça. Et moi, j'ai retravaillé ça, et je vais dire ceci comme ça. Le propos éternel de Dieu a été établi par Jésus-Christ, afin que la sagesse variée de Dieu, ou multicolore de Dieu, ça va, soit démontrée par l'Église aux principautés et aux autorités. L'Église est née du sacrifice du Seigneur à la croix. Elle est née de là. Et l'Église démontre aux principautés, aux anges méchants et à tout l'univers, aidez-moi, invisible. L'Église démontre à tout l'univers invisible la richesse variée, c'est-à-dire multicolore de Dieu. Et qui c'est qui montre cela? L'Église. Et qui c'est l'Église? C'est chacun d'entre nous. Éphésiens chapitre 3. Vous savez, on dit, j'ai besoin d'être libre, j'ai besoin d'être libéré. Est-ce que vous ne pensez pas que nos assemblées auraient besoin d'être libérées? Est-ce qu'on pourrait être sincère et en groupe, en assemblée, dire, Seigneur, montre-nous par quoi on est lié? Par quoi en quoi on est esclave, alors que nous sommes libres, mais qu'est-ce qui nous retient? Il y a quatre choses dans le Nouveau Testament où il est marqué que nous donnons accès au diable. Un, c'est le pardon. Manque de pardon. Car vous n'ignorez pas ces desseins du diable. Dans les couples, les relations sexuelles, c'est-à-dire un jeûne de relations sexuelles forcées, c'est-à-dire plus l'absence de relations sexuelles, s'il y a ça, attention, parce que ça peut être un accès au diable. La troisième chose, la colère. Éphésiens chapitre 4, la colère. Il faut que la colère, vous puissiez la contenir et la régler, votre colère, rapidement, parce que vous donnez accès au diable. Et puis, la quatrième chose, c'est dans Timothée, où des mauvais propos peuvent être le commérage ou certains mauvais propos, et le diable en a profité pour s'infiltrer. La réalité d'un monde spirituel est tellement prégnante qu'il nous faut faire très attention. Mais on n'a pas peur, on n'a pas peur, sauf que il nous faut juste être, on va dire, aux aguets, juste être vigilant. Le diable rôde autour de vous, donc on est vigilant, c'est tout ce que je suis en train de dire. Mais ce n'est pas seulement nous, individus, qui devons être libres, mais je fais un appel aux frères et sœurs, aux anciens dans les assemblées. Pourquoi pas demander ensemble, Seigneur, montre-nous. Et on est d'accord, on se soumet à toi. Quand tu nous montres quelque chose, on va le faire. Et vous allez voir, le Seigneur va le faire. Mais c'est le moment, quoi. J'ai bien conscience que le temps était un peu limité pour aller plus loin dans vivre la liberté que nous avons, mais vous pourrez... en Christ, mais vous pourrez aller approfondir tout ce que ce sujet si important comporte. En tout cas, que le Seigneur bénisse sa parole, que nous soyons sérieux avec lui, que nous soyons soumis à lui. Je parle aux jeunes, on a besoin de vous. On a besoin que vous vous donniez au Seigneur pour devenir, dans les quelques années qui viennent là, des hommes et des femmes de Dieu. On n'a plus le temps de ne plus être spirituel. On n'a plus le temps. Le monde se meurt. Et le monde, vous allez voir, demandez au Seigneur de vous ouvrir les yeux et vous allez voir la solitude, la culpabilité, la condamnation, la tristesse au plus profond des personnes, quoi. La peur de la mort. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et dites au Seigneur, ce que tu as préparé pour moi, je suis d'accord. Je ne vais pas le faire, à moins que tu me diriges. Mais quand vous allez être là, non pas travailler, trimer pour Dieu pour avoir son acceptation, vous l'avez, mais travailler avec lui, en collaboration avec lui. Vous allez voir, les choses vont se passer. Et votre vie va être transformée, parce que vous allez voir les délivrances de Dieu. Ça va ?